Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est le procès. Hier, ils étaient politiques, ces procès médiatiques et historiques. On y défendait des causes, mais aussi des visions du monde. Demain, mercredi, nous nous interrogerons sur l'usage des nouvelles technologies dans la justice de demain et d'après-demain. Jeudi, le procès de Madame Bovary se fera au théâtre avec le public pour témoin. Et enfin, vendredi, carte blanche cinéma. On regardera les procès en 5 extraits de films. Aujourd'hui, nous écoutons des jeunes magistrats et avocats nous raconter leur quotidien. Mes jambes flanchent, mes mains tremblent, mes joues me brûlent, tenir droite, avancer, faire confiance à mon corps et me laisser guider. Ma main se soulève, mon index presse un petit bouton sur le mur, une glaçante sonnerie métallique retentit, le silence se fait dans la salle d'à côté, je n'entends plus que les corps se lever, se raidir et attendre, m'attendre. Mes jambes m'emportent dans le petit escalier qui monte à l'échafaud, ma main droite ouvre une porte, des dizaines de paires d'yeux me fixent, immobiles, le grand fauteuil au centre de l'estrade m'aspire, ma bouche leur dit « l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir », ma voix est sûre, ils obéissent, les corps se plient jusqu'à ce que je ne vois plus que des têtes, toujours tournées vers moi, et puis plus rien. Le silence revient, je ne sais plus ce qu'ils me veulent, je comprends qu'ils m'attendent encore. Il est 14h passé de 2 minutes, la juge est une femme de 30 ans. Vous écoutez France Culture, bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Les nouvelles vagues nous bougent, se déplacent, nous déplacent et parfois laissent des marquants souvenirs. Ce sont les récits de ces moments-là que nous écoutons chaque jour en fin d'émission. Cette semaine, c'est le musicien malien Balaké Sissoko qui partage ses récits. Aujourd'hui, il raconte comment sa mère choisit une nouvelle calebasse au marché pour remplacer celle de la kora de son père, au moment où il devient, lui, jeune fonctionnaire de l'ensemble instrumental national du Mali et qu'il quitte la maison. C'est encore elle qui choisit les calebasses aujourd'hui. Aujourd'hui, instrument hautement symbolique vers 14h45. C'est donc le deuxième moment d'une semaine thématique consacrée au procès. Aujourd'hui, on raconte la première fois avant de raconter les suivantes, le quotidien, raconter les dossiers plus ou moins intéressants, raconter aussi les petites salles de 15 mètres carrés qui contrastent avec les historiques et grandiloquents palais de justice, raconter le choix de métiers qui grignotent parfois la vie privée et font peser parfois aussi le poids d'une responsabilité personnelle aussi lourde que parfois toujours le manque de moyens. On racontera aussi le cœur du métier, les histoires d'humains, le surgissement de la violence, les conflits de voisinage ou les décisions administratives motivées de 1000 pages d'écriture. Tout ça, vous connaissez bien. Jean-Baptiste de Motion, vous êtes avocat en contentieux au barreau de Paris. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Céline Roux, vous êtes juge au TGI de Paris. Vous avez notamment été juge aux affaires familiales et vous avez publié La juge de 30 ans dans la collection Raconter la vie aux éditions du Seuil, dont je lisais un extrait à l'instant. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Marie Dubois-Frenet, vous êtes avocate en droit de la propriété intellectuelle. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et enfin, Boris Rosenthal, vous êtes avocat en droit pénal. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Voilà, monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que, donnez-nous vos noms, prénoms, âge, profession, date et lieu de naissance, profession et résidence, s'il vous plaît.
J'ai 21 ans, j'habite à Pau, de milliers chez ma mère. Je travaille dans des remises en état, nettoyage industriel.
D'accord. Quel est votre avocat?
Maître Dana.
Merci, asseyez-vous. Nous allons procéder à l'appel de mesdames et messieurs les jurés. Chacun de vous, à l'appel de son nom, voudra bien répondre présent. Les jurés qui seraient conjoints, parents ou alliés de l'accusé ou de son avocat jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ou qui seraient intéressés à l'affaire en tant que témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile, qui auraient accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction, ou qui auraient des motifs d'excuse à faire valoir, devront le déclarer pour être provisoirement rayés de la liste. Monsieur le greffier, voulez-vous faire l'appel des jurés, s'il vous plaît?
Juré titulaire numéro 1. Jabin Laurent. Juré titulaire numéro 2, Arbios Stéphanie, épouse Benitez. Présent. Juré titulaire numéro 3, Eric Arré, Daniel, épouse Mendiondou. Présent. Juré titulaire numéro 4, Doua Georgette, épouse Barada. Présent. Juré titulaire numéro 8, Smagué Daniel.
Et tout le monde est présent. L'énumération des jurés continue. C'est un extrait du documentaire de Dominique Missica, diffusé en 2010 dans l'émission Sur les Docs sur France Culture, qui s'appelait Les coulisses d'un procès d'assises. Est-ce que tout le monde est là? On a parlé des avocats dans cet extrait, du juge, du greffier, de l'accusé, des jurés. Est-ce qu'il manque quelqu'un?
L'avocat général,
Jean. L'avocat général.
Les parties civiles.
Les parties civiles. Bon, donc tout le monde est là, tout le monde est présent. C'est une ambiance que vous connaissez bien tous les quatre. Est-ce que vous vous souvenez, je citais donc l'introduction de votre livre Céline Roux, est-ce que vous vous souvenez du premier procès, du premier moment où vous avez entendu de manière professionnelle, en étant impliqué, toutes ces phrases et tous ces mots et toutes ces personnes prendre la parole, et que ce fut la première fois pour vous, Boris Rosenthal?
Oui, alors enfin, là en l'occurrence c'était un procès d'assises puisqu'on fait appel des jurés. Oui, j'ai eu la chance de faire mes premières assises il y a 2 mois à peine. C'est un moment qu'on vous apprend pas à l'école, notamment le choix des jurés, l'appel des jurés. Ce moment-là, c'est un moment qui est qu'on vous explique pas, on vous dit que ça a lieu, mais on ne vous dit jamais.
C'était ma question de savoir si vous étiez formé à ça.
Enfin, on est formé, on nous dit que ça existe, c'est un moment qui existe, mais on peut le lire, mais jamais le ressentir avant. Et puis ce moment-là où on voit les jurés, on se demande comment on va révoquer. C'est un moment qui est très très impressionnant, et vaut mieux avoir derrière soi ou devant soi des avocats ou des confrères aguerris et rompus à l'exercice en tout cas.
Alors comment on le vit? On le vit dans le premier temps, la première fois, simplement comme un moment à la fois impressionnant et qui renvoie à un manque d'expérience, qui renvoie au grand bain, qui vous renvoie à quoi?
C'est un moment qui est extrêmement paradoxal, parce que d'un côté on est poussé dans la responsabilité pure qui est bon, maintenant je dois assumer mon rôle, je dois assumer ma robe, je dois assumer la défense, la stratégie de défense que j'ai choisie ou que je vais choisir, et en même temps de dire mince, comment je fais, qu'est-ce que je fais, comment le faire. Et c'est assez amusant de voir que personne n'a la même réaction. J'ai notamment un confrère récemment, un ami qui faisait ses premières assises et qui a commencé à révoquer au moment justement de l'appel des jurés, ce qui n'est pas le moment, mais donc comme il savait pas et qu'il avait envie de le faire et qu'il a entendu le juré et que c'est lui qui devait révoquer parce que voilà, il a fait révoquer alors que c'était pas le moment. Donc non, on nous l'apprend pas, et tout se mêle en même temps, et on a envie d'agir, et en même temps on sait pas comment le faire,
et en même temps on est obligé de trouver les outils sur le vif, parce que de toute façon il faut faire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment faire peut-être, mais il faut faire, j'imagine.
Ah, mais on est obligé, c'est une obligation morale qu'on s'impose déjà.
Et vous les trouvez, les outils? Est-ce que vous en souvenez, Céline Roux, de cette première fois?
Je m'en souviens très bien. Alors moi, c'était au tribunal correctionnel. S'agissant de la cour d'assises, pour les magistrats débutants, c'est extrêmement impressionnant, parce que c'est une audience qui est empreinte de sacré, de religiosité. Donc c'est toujours impressionnant, mais on est un peu plus passif, parce que quand on débute, on est assesseur. Autrement dit, on encadre le président et on peut se permettre d'écouter et d'apprendre sur le vif pour éventuellement devenir président, mais dans de nombreuses années. Au tribunal correctionnel, c'est différent, et notamment pour les audiences dites à juge unique, où là, on peut être jeune, débutant et seul. Et c'est l'extrait que vous avez lu, c'était ça, une audience à juge unique au tribunal correctionnel. Donc les petites affaires correctionnelles, mais néanmoins avec des enjeux humains toujours importants. Et je me souviens très bien de cette tension que vous venez d'exprimer entre la responsabilité qu'on doit assumer, le professionnalisme dont on doit faire preuve, et puis cette espèce de vide intérieur où on a l'impression d'avoir tout oublié, comme quand on passe un examen.
Marie?
Oui, c'est un moment où tout bascule en fait. Moi, ce qui m'a marqué le plus en fait, c'est, alors j'ai pas l'expérience des assises, mais dans d'autres dossiers, c'est vraiment justement sortir du dossier et être dans la confrontation avec le magistrat, et alors qui n'est pas une confrontation, on doit lui argumenter et faire valoir notre dossier, mais c'est voilà, on est face à lui. Et alors que jusque-là, moi, je suis plutôt dans mes procédures au TGI, donc c'est de longs échanges d'écriture, des conclusions. Et c'est vrai que d'un seul coup, voilà, on est l'un en face de l'autre, on a le confrère à côté, et tout prend une autre forme. Et alors, on doit parler, vraiment argumenter, mais en même temps, on a ce stress de se retrouver, sortir de notre dossier où on était tout seul avec nos conclusions, et voilà.
C'est une façon de aussi embrasser réellement votre fonction. Vous parlez finalement tous les trois, on va vous entendre, Jean-Baptiste, beaucoup du corps, comme s'il y avait une façon de prendre corps aussi dans la ouais. fonction, dans le moment. Ça se sent physiquement?
Ça se sent physiquement, ouais. C'est, je pense que, alors moi, j'ai pas eu beaucoup d'expérience de plaidoirie, parce que ça fait peu de temps que j'exerce, mais j'ai pu ressentir sur certaines plaidoiries vraiment un combat, quoi. On se donne à 100% dans ce dossier qu'on a travaillé longtemps et qu'on veut gagner, et voilà, et c'est physique. Ouais, c'est physique. On ressort, on est parfois un peu vidé, quoi. Puis parfois, c'est les procédures, enfin, les audiences prennent du temps, donc on attend beaucoup parce que on n'est pas convoqué chacun à une heure précise. Beaucoup d'avocats sont convoqués pour une plaidoirie au même moment, donc chacun passe, on attend son tour. Et donc, c'est vrai que c'est, voilà, toute cette ambiance aussi autour, avant, après la plaidoirie, ça crée, ouais, physiquement quelque chose de très dense.
Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on découvre? Est-ce qu'il y a des aptitudes que vous avez découvertes les uns les autres dans ce moment paradoxal où vous êtes à la fois avec tout ce que vous savez et tout ce que vous avez appris et tout ce que vous ne savez pas? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le vif qui se révèle?
Je pense que ouais, on s'étonne à mon avis nous-mêmes des capacités qu'on peut avoir sur le moment à se faire surprendre, soit par une question du magistrat, une intervention du confrère qui déstabilise, parce que c'est vrai qu'on prépare, on prépare beaucoup notre plaidoirie à l'avance, on s'imagine ce qu'on va dire, ce qu'on va pas dire, la façon dont on va le dire, et d'un seul coup, on peut être déstabilisé, et moi je m'imaginais pas pouvoir
réagir
voilà, et trouver quelque chose à dire à ce moment-là, et je pense que là c'est là qu'on se surprend, et que voilà, toutes les études qu'on fait avant et le travail qu'on fait se révèle dans ces moments-là, je pense.
Une première fois, Jean-Baptiste de Moissieu?
Pour rebondir sur ce qui a été dit, ce qui est assez amusant sur les premières fois, et je pense encore plus aux assises ou dès lors qu'on se retrouve soit au pénal, soit devant le tribunal de grande instance, c'est que il y a effectivement toutes ces règles de procédure qu'on a apprises de façon très textuelle et presque mécanique, et on se rend compte, on est confronté un peu à la limite de ces règles-là, où finalement il y a tout un process interne que chacun, que soient les magistrats, ont intégré et pratiquent d'une certaine manière, les avocats aussi. Il y a en plus un aspect un peu rituel ou sacré, où quand tout à l'heure tu disais on rentre dans le combat, et ben on est tous en robe déjà, il y a quand même quelque chose du sacré, où précisément en fait on est au-delà de notre compétence, ou en tout cas on n'est plus le produit de notre connaissance, mais effectivement ça va être une réaction par rapport un peu à cette donnée sacrée, l'interaction entre le juge qui va être un regard, savoir si je peux encore placer un mot, est-ce que vaut mieux que je me taise, est-ce que pareil avec un confrère, un contradicteur. C'est tous ces rapports-là qui sont très impressionnants et très intéressants, auxquels on n'est par hypothèse pas préparé, mais on s'en sort toujours finalement.
Vous faites pas des jeux de rôle pendant votre formation, des moments de mise en situation où vous pouvez quand même éprouver un peu physiquement les semblants d'un procès, Céline Roux?
Si, à l'école de la magistrature, on fait des simulations d'audience au cours desquelles on est évalué. Donc chacun joue un rôle, chaque auditeur de justice, c'est le nom des futurs magistrats qui sont en formation, joue le rôle du prévenu, de la victime, du procureur et du juge. Sous le regard du reste des étudiants, et on est évalué comme ça.
Et c'est quand très même utile. Prépare à quelque chose, non?
Ah oui, c'est extrêmement utile. Et en plus de ces simulations, donc à l'école, qui reste quand même assez théorique puisqu'on est entre nous, on a un an et demi de stage en juridiction, au cours duquel donc on tient des audiences, mais sous le regard d'un tuteur qui est présent à côté de nous, qui nous laisse la parole, mais qui est là pour intervenir, pour compléter, reprendre.
Comme l'auto-école, quoi.
Exactement. Il tient les pédales. Voilà.
Et vous, concernant, je ne sais pas, votre formation, vous avez quand même des moments où vous testez votre possibilité à tenir une plaidoirie, avancer des arguments?
Oui, c'est un peu moins, à mon avis,
formalisé.
Oui, je pense, puis on n'a pas cette expérience de le faire dans des vraies conditions, c'est vraiment à l'école de formation du barreau, donc c'est... Et puis, je sais pas, il y a vraiment, je trouve, un écart entre ce qu'on fait comme simulation. Alors, on peut se projeter, mais c'est ni notre dossier, ni un vrai juge, ni un vrai contradicteur. Et la vraie plaidoirie, le jour où elle arrive, voilà, tout devient vraiment concret, réel. C'est l'enjeu aussi du dossier. On sait qu'il y a un client derrière qui est là et qui attend des choses de notre travail. Donc, ça prend une autre dimension quand même.
Pour rester dans les débuts, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez choisi d'embrasser ces carrières différentes, ces métiers-là, Jean-Baptiste?
Absolument pas. Je pense que c'était un pur concours de circonstances de la vie où je me suis inscrit dans une faculté de droit un peu par hasard. Et puis après, on se plaît dans la matière et puis on découvre. Mais pour ma part, ce n'était pas une vocation du tout.
D'abord le droit, puis ce métier d'avocat.
Exact. Parce que c'en est la continuité assez logique et en tout cas la plus commune, je dirais pas simple, parce que c'est pas la plus difficile non plus. Je veux dire, le concours de la magistrature n'est pas le même que le concours d'entrée dans la profession d'avocat. Mais c'est une suite logique. Après, c'est un enchaînement des choses.
Plus de vocation de votre côté, Boris Rosenthal ?
Oui, ouais, vraiment. Du plus loin que je me souvienne, j'ai voulu être avocat. Alors je ne sais pas si c'est l'histoire personnelle qui veut ça, si c'est, je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir subi parfois des injustices. J'étais peut-être un garçon un petit peu turbulent et donc du coup à chaque fois qu'il y avait une bêtise qui était faite, c'était nécessairement c'était vers moi que se tournaient les yeux. Et les choses ont fait que j'ai toujours voulu défendre. Un peu à ma manière, la veuve et l'orphelin. Alors c'est un petit peu stupide de le dire comme ça.
Ou cliché, mais pourquoi pas.
Ouais. Un petit peu cliché, ouais, de le dire comme ça. La veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin aujourd'hui, c'est le prévenu, c'est l'accusé, c'est le mis en cause. Et oui, mais du plus loin que je m'en souvienne, ouais, j'ai toujours voulu défendre en tout cas.
Et de votre côté, Marie et Céline ?
Ouais, pareil, moi, c'est une vraie vocation, sans cause particulière. Enfin, je me rappelle pas. Avoir subi des injustices particulières, mais une vraie envie de la défense, en tout cas. Le métier en tant que tel s'est imposé à moi, vraiment.
Et donc, du droit pour voilà, être la avocat, formation qui allait avec. C'est-à-dire que c'était ouais. parce que vous souhaitiez ouais. être avocat que ouais. vous avez choisi les études Exactement. De droit. Ouais. Et vous, Céline ?
Moi, un moment, oui, j'ai voulu, puis j'ai plus voulu, puis j'ai revoulu, puis j'ai renoncé, et puis à la fin de mes études, qui portait plutôt sur autre chose, la philo notamment, je me suis dit, non, je peux pas ne pas y aller. Et donc, j'ai décidé de me mettre au droit à Sciences Po et de passer le concours, voilà.
Et alors, sans entrer dans des questions personnelles, ce « je ne peux pas ne pas y aller » était motivé par quelque chose que vous connaissiez ?
Je pense. Oui, dans mon entourage familial, il y avait des magistrats.
Et vous vous êtes dit, je peux pas
ne pas y aller.
C'est
comme ça que j'ai connu, c'est comme ça que j'ai fréquenté des salles d'audience assez jeunes. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, non, c'est ça que je veux faire. À la fin.
Les affaires privées. Allô, toi. Bon, écoute-moi, c'est... Ne crois pas que je t'appelle pour te récupérer ou quelque chose comme ça. J'en ai rien à foutre de ta gueule. Alors, j'ai peut-être, moi, pris des habitudes qui ne courent pas les rues, mais... Et c'est sûrement un défaut. À chaque fois que je commence une phrase par une négation, je m'interroge et je me dis, mais... C'est un peu louche, ça. Alors, quand on téléphone... Il a fait un pas. Aujourd'hui, à l'audience. C'est pas un pas de géant. Un frère dans la salle. On est rarement fier de ça. Moi, ça m'est arrivé de ne pas être très correct. Souvent, les hommes, je crois, sont plus bêtes que les femmes dans ce domaine-là. On n'est jamais fier. Je pense que c'est les moments où on culmine, nous, je dis nous parce que je suis de ce côté-là, en tout cas, on culmine à ce moment-là, je crois, dans la bêtise. Et je le dis, j'aime pas les gros mots, j'en ai rarement, mais vraiment dans la connerie, je crois, là. Et je souhaiterais, pour ma part, que lorsqu'il y a eu de l'amour pendant 7 ans et qu'on se voit signifier « Tu t'en vas, je veux plus entendre parler de toi, c'est fini, tu n'existes plus pour moi », que parfois ce qui était de l'amour devienne ce qu'il y a de plus moche, de plus horrible, et qui est la haine. Et c'est vrai que j'aimerais bien, moi, que l'amour soit pas aussi proche de la haine, et bien sûr, quand c'est de la haine, du côté des victimes, bien sûr. Madame est la victime de cette audience, l'était déjà à l'audience précédente. Il s'agit pas de venir inverser les rôles d'aucune manière. Que lorsque on est de ce côté-là, eh bien évidemment que c'est irrecevable, parce qu'on s'en fiche. Que la haine, ce soit une forme d'amour, etc. Parce que, bien sûr, on est victime de l'agression et on s'en fiche et on a raison.
Vous avez, Madame le Président, la confirmation que depuis 3-4 mois, les choses se sont stabilisées. Semble-t-il,
La justice, il l'écoute quand même un peu parce que ça a l'air d'être en lien avec des convocations qu'il aurait pris la décision cette fois de mettre un terme à ses appels téléphoniques. Je souhaite que les choses poursuivent ainsi. Je souhaite que vous m'entendiez cette fois et je demande à votre juridiction non pas de ne pas envoyer un signal fort, mais d'envoyer un signal peut-être plus dans la veine d'un dossier qui, je pense, est un dossier, même si c'est difficile à entendre, qui est un dossier de cœur terrible, mais de cœur, et pas un dossier de criminalité.
Très beau à vous voir tous les quatre à ce point tendre l'oreille pendant les 2 minutes 50 de l'extrait de ce film La Dixième Chambre de Raymond Depardon, ce qui permettra peut-être de discuter de l'écoute et du rôle de l'écoute dans vos différents métiers. Plusieurs choses dans ce qu'on entend ici, il s'agit d'une affaire de harcèlement téléphonique. Peut-être la première, c'est de souligner à quel point dans cette plaidoirie on entend la pénétration dans la vie privée au plus près des individus, les questions de haine, d'amour, les questions de quotidien. Est-ce que c'est quelque chose auquel on est préparé, par exemple, Céline Roux?
On sait bien que ça va arriver. Quand on est juge aux affaires familiales, par exemple, on sait bien qu'on va rentrer directement dans l'intimité des gens, quand on est juge d'instruction aussi. Mais néanmoins, on n'y est pas plus préparé que ça. On en a bien conscience, mais c'est difficile de former des jeunes magistrats ou des jeunes avocats à ça.
Et alors à quoi exactement? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il se joue là, hein? Quand on va sur le site du ministère de la Justice, on voit justement ces qualités de connaissance pointue du droit, évidemment, mais rigueur déontologie, évidemment, mais aussi grande capacité d'écoute et d'analyse. Qu'est-ce qui se joue dans vos capacités, alors de jeunes avocats ou de jeunes juges, à s'approcher au plus près des individus pour, j'imagine, s'approcher aussi au plus près de la justesse des décisions, des plaidoiries?
Alors moi personnellement, j'ai pas une grande expérience des dossiers avec des particuliers, parce que je suis plus dans un domaine qui touche les entreprises, on va dire. Mais j'imagine que plus on va personnaliser le dossier et le rendre humain aux yeux d'un magistrat, sortir, parce que le droit rend tout de suite les choses un peu complexe, avec des termes très compliqués, et on sort de ce qui fait le dossier, de ce qui fait l'humain derrière le dossier. Et je pense qu'en retrouvant ça, peut-être on rend plus juste l'approche des choses. Alors, je pense que un pénaliste parlera beaucoup mieux de ces choses-là que moi, mais
du côté humain. Oui, j'écoutais avec l'oreille attentive la plaidoirie de mon confrère. C'est horrible quand la justice répressive, parce que c'est pas n'importe quelle justice, c'est horrible quand la justice répressive vient, je sais pas si c'est clore, mais au moins intervient dans des relations personnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient c'est un moment qui est extrêmement dur, tant pour les victimes qui sont identifiées, et il le dit très bien le confrère, tant pour les victimes qui sont identifiées dans l'audience que pour le prévenu.
Extrêmement dur, mais extrêmement nécessaire, c'est-à-dire que c'est aussi son endroit. La justice, c'est malheureux, mais c'est son endroit.
Mais c'est un vrai débat, c'est un vrai débat. C'est nécessaire qu'il y ait une justice qui soit présente. Est-ce qu'elle doit être nécessairement répressive? Ça, c'est une vraie question, c'est un vrai débat. Bien sûr qu'il y a des infractions, et je pense que c'est là la difficulté principale du magistrat qui a l'audience. Parce que souvent, j'imagine que dans les... Là, il s'agit d'appels malveillants, j'imagine, dans ce qu'on a entendu. C'est souvent un juge unique, donc le juge unique est tout seul, finalement, à prendre une décision entre la qualification de l'infraction, qui est extrêmement objective, et bien toutes les circonstances, tout le contexte qui est de la subjectivité à l'état pur. C'est de la vraie difficulté, c'est extrêmement difficile de faire la part des choses à ce moment-là.
Est-ce que vous sauriez dire aussi, Jean-Baptiste Motion, si vous êtes préparé à cette part humaine si grande, à cette part subjective qui compose votre métier au quotidien?
Écoutez, alors moi, ça m'est très difficile de répondre sur cette partie qui est très liée au pénal et donc à des infractions où on voit bien que c'est très difficile de sonder les cœurs et les reins, et en même temps, il est nécessaire d'avoir une infraction, et il y a un moment où la limite est franchie. Moi, je sais que le rapport humain, quand je dois l'avoir ou quand je dois l'amener dans mes dossiers, c'est parce que il est nécessaire quand j'ai des conclusions qui doivent être très longues ou des dossiers qui sont, vu de l'extérieur, assez arides, de les humaniser, de raconter une histoire. Et on ne peut pas raconter une histoire si on n'a pas un petit peu de, des petits détails de la vie, des petits détails de la vie économique qui donnent une certaine réalité qui fait qu'on y croit. Et c'est ce qui est très utile dans la manière de rédiger, de s'adresser à un juge pour montrer qu'il y a une sorte de cohérence humaine ou d'une société, même de comportement, dans une position qu'on veut tenir. Et donc c'est là où, effectivement, on essaye de donner de la chair à nos à l'histoire qu'on raconte, de telle sorte qu'elle soit pas la compilation de quatre règles de droit qui sont, somme toute, assez ennuyeuses et assez peu convaincantes.
Finalement,
convaincantes peut-être, mais pas persuasives.
Finalement, pour vous trois, c'est un levier pour présenter l'affaire, pour présenter le dossier. Et pour vous, Céline Roux, ça se situe peut-être à un autre endroit, qui est l'endroit du jugement, c'est-à-dire c'est plutôt une présentation de l'affaire et humaniser le dossier pour qu'il soit plus préhensible, peut-être plus à l'avantage de tel ou un tel. Vous, la question, c'est comment prendre la décision bonne au vu et au su de la situation humaine de tous les protagonistes.
Oui, exactement. En fait, c'est le cœur de la difficulté. C'est aussi le cœur du métier, c'est en grande partie pour ça qu'on l'aime et pour ça qu'on le fait. Et c'est ce qui rend les choses difficiles. Vous demandiez à quoi il faut former pour finalement arriver à juger l'humain. Je pense qu'il faut de l'humilité, il faut de la capacité de remise en cause, capacité d'étonnement, de doute, aussi beaucoup de respect. Et finalement, c'est dans ces circonstances humaines qui sont souvent pas très glorieuses, hein, dans les enceintes judiciaires, qu'on se rend compte qu'il y a quand même une grande proximité entre soi et la personne qu'on va juger. Et ces errances-là, finalement, elles sont fréquentes, elles sont courantes, elles existent dans la littérature, dans le cinéma, dans le théâtre, dans l'actualité, et c'est ça qu'on juge et dans l'enceinte judiciaire.
Et d'ailleurs, ce sont vraiment des choses qui ressortent énormément, hein, des différents films de Depardon tournés dans les enceintes et juridiques, judiciaires. C'est en effet la proximité, à parfois le grand éloignement, on l'entendra peut-être tout à l'heure, mais la proximité que c'est qu'être humain, quoi, et ce qui rassemble. Dans votre livre, vous évoquez ce que c'est aussi que d'être une juge femme face aussi à des collègues hommes, avec des avocats femmes, à des avocats hommes. Ici, on entend combien l'avocat utilise son genre pour plaider, en disant oui, moi aussi, en tant qu'homme, je crois qu'il dit je dis on parce que je me situe de ce côté-là, dans ces moments-là, on culmine au sommet de la connerie. C'est quelque chose qui est utilisé, ça, dans le cadre des audiences, le caractère très genré des comportements.
Oui, ça arrive. Ça arrive. Alors, c'est vraiment à double tranchant, c'est-à-dire que c'est souvent le justiciable qui est un homme, et de plus en plus les magistrats qui sont des femmes, les avocats qui sont des femmes et les greffiers qui sont des femmes. Donc ça peut poser une difficulté, ou en tout cas créer un sentiment de malaise chez cette personne qui est jugée alors qu'elle est la seule du genre masculin dans l'enceinte. Je pense pas que ça aide un retentissement sur la décision, sur la prise de décision, ni sur sa nature. En revanche, je pense qu'il y a une difficulté dans les apparences. Ensuite, est-ce qu'il y a des techniques utilisées par les avocats pour déstabiliser un peu la jeune juge débutante? Oui, ça arrive aussi. Parfois, ça marche. D'autres fois,
c'est jamais volontaire.
Les ficelles sont grosses.
Vous appuyez sur le fait que vous êtes des hommes tous les deux pour plaider? Jeunes avocats avec petite expérience.
Moi, pas du tout. Et il n'y a pas vraiment lieu, dans le type de dossier que je traite, de jouer de mon genre.
Du genre proprement dit, non, de la jeunesse parfois, de la fougue souvent, pour essayer de faire bouger les lignes. C'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à une évolution des professions judiciaires qui sont telles que
elle
se féminise beaucoup. La majorité aujourd'hui, je crois que 72%, 67, entre 67 et 12, 72% des avocats sont des femmes. Je pense qu'il en est au moins pareil des magistrats. Oui, on assiste à cette évolution-là, et c'est vrai que pour des professions, en tout cas pour la profession d'avocat, qui a pendant très longtemps été une profession d'hommes, et particulièrement aussi dans le domaine du pénal, qui est encore peut-être moitié-moitié entre hommes et femmes, c'est vrai que je ne sais pas si on se sert du genre. Mais en fait, si, on s'en sert. Enfin, je le vois, j'ai bien sûr des prévenus ou des personnes qui sont mises en cause qui préfèrent avoir une avocate parce qu'ils s'imaginent, à raison ou à tort, je ne sais pas, que elle va plus être ou elle va plus être entendue par une femme ou elle va plus être dans la séduction si c'est un magistrat homme. Je sais pas. Oui, je pense que parfois ça entre dans une stratégie de défense. Le fait aussi d'avoir un avocat. Tout à l'heure, on parlait des procès d'assises, dans des gros procès, enfin des procès d'assises importants avec beaucoup de violence, avec beaucoup de voilà, d'avoir peut-être un visage qui est plus doux pour représenter quelqu'un. Ça fait tilt dans l'oreille des jurés. Peut-être justement avoir quelqu'un qui est plus fort et plus costaud et qui présente plus justement. Ça permet aussi d'avoir peut-être des coups de gueule qui soient un peu plus entendus. Ouais, je pense qu'on se sert de
là encore
de tout
les fichiers,
dans une
on la peau dure.
Oui, non, mais c'est vrai, hein, mais on se sert de tout dans une audience. On se sert du corps, on se sert de la voix, on se sert du genre, on se sert de tout.
Et parfois, ce sont aussi les personnes qui viennent, en tout cas, en l'occurrence, dans ce que vous racontez dans votre livre, Céline Roux, voir dans votre bureau, au cours d'audience, ce sont elles qui vous renvoient au fait que vous êtes une femme, au fait que vous êtes jeune, au fait que vous êtes oui ou non avec des enfants. C'est quelque chose qui... Bah, peut-être on commence par vous, Marie, puisque vous hochez la tête.
Oui, je pense que c'est... Je pense pas qu'on s'en serve intentionnellement, mais je pense que parfois, on nous renvoie. Et je rejoins ce que disait Boris, il y a le genre, mais il y a la jeunesse.
La jeunesse.
Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sent. Nous, on est tout vigoureux, on sort de nos études, on a envie de bien faire et j'ai pu être confrontée à une image qu'on me renvoyait, pas forcément d'être prise au sérieux, d'être un peu mis à l'écart, enfin on se sent pas forcément écouté comme on devrait l'être, ou comme par exemple des confrères à côté de nous plus expérimentés le sont, je sens un décalage.
Mais entre confrères ou la relation client-avocat?
Non, la relation client-avocat, le client en général, il nous choisit, donc
il sait
confiance, il sait à qui il a affaire. Non, c'est plus vraiment au sein des juridictions, soit les magistrats, soit les confrères. Beaucoup les confrères aussi, plus expérimentés, qui voient arriver alors peut-être aussi une jeune femme en face d'eux, en se disant « off ». Facile. Et donc ça peut être déstabilisant parce qu'on se met un petit peu un challenge à nous-mêmes en se disant il me prend pas au sérieux, il va voir quoi. Mais du coup c'est double difficulté du dossier. Et c'est vrai que ça, je pense qu'on on peut le ressentir. Peut-être sur le côté femme. C'est pas quelque chose qu'on utilise mais qu'on ressent.
Que peut-être ce à quoi vous êtes renvoyé. Ouais, ce sont des choses que vous racontez à la fois par votre expérience ou des expériences rapportées de confrères ou de consoeurs dans votre livre, Céline Roux, c'est encore le cas aujourd'hui? Quelques années sont passées, à peine.
Sans doute moins. Ma jeunesse surprend moins, puisqu'elle est moins visible. C'était le cas au début, en tout cas. Il y avait chez certains justiciables une surprise, un étonnement important à l'audience de me voir derrière le bureau. Certains pouvaient penser au début de l'audience que j'étais pas le juge. Donc c'est arrivé, oui. Parfois, c'est un peu agressif. Dans le sens mais vous avez pas d'enfant, vous êtes même pas marié, vous allez me divorcer, mais vous connaissez rien de
que
tout ça.
Que connaissez-vous à la vie pour juger la vie des autres?
Qui êtes-vous pour juger ça? D'autres fois, ça pouvait être un peu admiratif, parfois bienveillant.
Parfois rassurant, vous racontez aussi combien une paire de chaussures trahissant peut-être votre jeunesse ou votre féminité, vous ou celle de consoeur, a pu rassurer un enfant, un ado ou un père ou une mère.
Oui, tout à fait, c'est
parce que
d'un seul coup, des enfants.
Ouais, parce que aussi d'un seul coup, ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir d'incarner la fonction, permet aussi d'être un humain par rapport à d'autres humains.
Oui, tout à fait. Et puis la féminité renvoie aussi à la maternité, donc il peut y avoir un côté rassurant.
Je crois que l'éloquence, ce n'est pas la musique, premier point. Donc il y a des éloquences. L'éloquence, ce n'est rien d'autre que l'art de convaincre. L'éloquence, ce n'est rien d'autre que, par la parole, le convaincre. D'ailleurs, il y a de l'éloquence écrite aussi, on pourrait dire, mais c'est l'art de convaincre. Alors, sur ce sujet que j'ai beaucoup réfléchi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on parle aux gens et qu'on sent qu'on est en train de les convaincre, et qu'on trouve les arguments pour les convaincre. Et puis, on sait bien qu'il y a des types d'éloquence différentes. On ne peut pas, quand on fait une conférence, quand on parle à la radio, parler de la même façon que quand on parle en public avec des centaines de personnes en face de soi ou quand on parle dans une salle d'audience. On sait bien que la musique est différente. Et pourtant, je crois que l'art est le même. Oui. Et l'avocat qui fait un discours, comme j'en ai entendu beaucoup, l'avocat qui fait un discours pour la musique se trompe. Parce que c'est comme la musique militaire. On la suit, mais après on se demande pourquoi on y est allé. Et donc, si on veut convaincre, la musique ne peut être qu'une aide.
L'avocat qui fait un discours pour la musique se trompe, Jean-Baptiste Demotion. C'est une bonne leçon que donne ici Henri Leclerc dans un entretien avec Antoine Garapon, diffusé sur France Culture dans Les Avoies Nues. Il se trompe s'il fait un discours pour la musique?
Alors oui, il se trompe à plusieurs égards. Et encore, et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore posé dans notre débat, qui est devant quelle juridiction nous nous trouvons. Parce que il y a des juridictions dans lesquelles l'art oratoire a plus d'importance que d'autres, et dans lesquelles, par exemple, moi je sais que je travaille beaucoup plus dans des petits cabinets de juges rapporteurs devant le tribunal de commerce, et là nous sommes dans une discussion, et là l'art oratoire, si vous voulez, il est juste à être percutant et très démonstratif, et le plus concis dans la démonstration possible. Il n'y a absolument pas dans l'accumulation d'adjectifs qui peuvent être plus ou moins pompeux et qui ne visent finalement qu'à essayer effectivement d'endormir l'auditeur à la faveur d'une belle musique. Donc effectivement, moi je pense que pour ce qui est la plupart des audiences devant des magistrats, devant des juges du commerce, la musique n'a pas d'intérêt, et devant un tribunal de grande instance qui est une autre juridiction, la musique n'a pas non plus d'intérêt parce qu'elle fait perdre du temps aux magistrats qui n'en ont pas beaucoup et pour qui, la procédure étant écrite, l'intérêt de la plaidoirie étant vraiment non pas de plaider comme on l'imagine dans des assises, mais précisément de montrer du doigt ou de faire passer un ou deux messages qui sont les points clés d'un dossier et non pas de s'étendre et non pas d'essayer de faire des belles phrases.
Et donc, ce que dit Henri Leclerc de la capacité de fond, de conviction et du choix des arguments pour convaincre, de l'importance de ce choix des arguments pour convaincre, pour vous, ça joue davantage dans les pages d'écriture que vous livrez et dans votre capacité de concision, de conviction à cet endroit-là.
Exactement. Je vais caricaturer, mais on peut écrire 100 pages. 100 pages avec 100 pièces derrière, donc presque des milliers de pages qui sont censées aller à l'appui de notre démonstration. On va avoir un quart d'heure, peut-être tout au plus une demi-heure, ce qui serait énorme devant un magistrat pour plaider. Je sais pas si on fait l'exercice, je pense que parler un quart d'heure, ça doit représenter 3 pages. Donc cet exercice de concision, il peut même pas avoir lieu sur tous les points forts. Il s'agit vraiment d'appuyer sur un ou deux qui sont sélectionnés comme étant les plus saillants d'un dossier. Et à notre sens, et c'est là notre travail aussi, d'être le plus efficace. Mais ça reste un pari comme dans toute plaidoirie. Hein.
Est-ce que c'est quelque chose qui va contre la représentation que vous pouviez avoir de votre métier ou alors qui va contre la représentation générale que l'on peut avoir du métier d'avocat qui est plutôt du côté de la grandiloquence, de l'éloquence, de la conviction, de l'argumentation, etc.?
Oui, je pense que ça va à l'encontre complètement du préjugé de ce qu'on peut en penser, peut-être avec des images d'Épinal tirées de l'histoire ou tirées aussi des séries américaines où effectivement on met devant la caméra beaucoup plus des scènes de procès d'assises ou des procès aux États-Unis toujours liés avec au pénal. Donc oui. Après, est-ce que moi je ne me figurais ça quand j'étais jeune comme étant la réalité? Je ne sais pas, je pense que j'étais assez jeune dans ma tête et j'imaginais peut-être plus effectivement le pénal tous les jours, où je n'imaginais pas l'importance ou le nombre de litiges en matière civile ou commerciale qui sont quand même extrêmement, extrêmement fréquents.
Et tout aussi intéressant?
Et tout aussi intéressant parce qu'il y a toujours une histoire à raconter. Et en réalité, c'est ça, enfin, moi je pense que c'est ça qui définit notre histoire et qui fait une communauté entre tous les avocats, peu importe la défense ou la matière dans laquelle ils exercent, c'est qu'il s'agit de raconter une histoire et de démontrer quelque chose grâce à une histoire,
Et alors justement, quand même pour en revenir à ce que disait Henri Leclerc, cette capacité à raconter une histoire, on l'aiguise, on l'apprend, j'imagine qu'on l'expérimente, qu'on l'affine. C'est quelque chose dont on se découvre aussi la capacité?
Ouais, je pense que on est très, surtout quand on sort de nos études où tout est très théorique pendant de nombreuses années, on est assez axé sur le côté juridique pur, les arguments, la jurisprudence, et on se rend compte que tout ça c'est très important, mais que ça fait pas du tout l'intégralité du dossier et que tout réside beaucoup dans les faits, la manière de les raconter, la manière de les retranscrire et de les lier à ces arguments juridiques. Et tout ça, voilà, on pouvait se figurer qu'un bon dossier, c'était un dossier avec un argument fort en droit, mais pas forcément. C'est voilà, vraiment l'histoire, en effet, cette histoire à raconter et cette défense à faire valoir auprès d'un juge, elle se joue sur de nombreux éléments au-delà du droit pur. Et je pense qu'on retranscrit ça dans la plaidoirie. L'art de convaincre, c'est voilà, faire valoir cette histoire et ce raisonnement qu'on développe tout au long de nos écritures. Et ouais, je pense que c'est...
On y pense combien de temps à cette histoire? Comment est-ce qu'elle vous habite les uns les autres? Vous écrivez, Céline Roux, combien est-ce que les affaires parfois peuvent complètement transpirer sur des moments qui sont les moments de la vie privée, mais ça reste en tête, la question de la bonne décision reste là. Vous diriez, Marie Dubois-Frenet, que c'est tout le temps.
Et encore, moi, comme je le disais, je suis dans des dossiers où c'est des entreprises plus qui s'affrontent, donc les enjeux humains sont inexistants. Enfin, ça reste très important pour des entreprises, mais c'est plutôt des enjeux économiques. Mais tout le temps. Tout le temps, enfin, c'est surtout quand on débute, on a une envie de bien faire qui nous suit tout le temps, et on y pense, on réfléchit, la manière de tourner le dossier, les faits, les arguments, comment les mêler, ça s'arrête pas à la fin de la journée.
Et parfois, il y a quelque chose qui arrive de l'ordre de la solution ou du déclic ou du point qu'il fallait trouver et souligner, comme disait Jean-Baptiste.
À force d'y réfléchir, je pense que. Puis même parfois prendre du recul sur un dossier, s'arrêter et puis le reprendre, ça nous apparaît d'une autre façon et on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et donc c'est pour ça que c'est nécessaire aussi de prendre ce temps et cette réflexion et d'être tout le temps en constante réflexion sur ce dossier parce que c'est...
Et vous l'avez le temps ?
Ouais, il faut le prendre. Non, c'est pour ça que c'est un métier qui est super, hein, qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qui suit tout le temps, toute la journée. C'est
très plaider prendre. Pour la musique, c'est se tromper, Boris Rosenthal.
Je ne sais pas si c'est se tromper, mais Henri Leclerc dit que l'éloquence, ce n'est pas la musique. Il dit que ce n'est pas la musique parce que ce n'est pas l'éloquence, c'est les éloquences. Et c'est exactement ça, je pense pas. Enfin, dans les procédures orales, Jean-Baptiste faisait la dichotomie entre les procédures qui sont plus donc écrites et les procédures orales. Oui, dans les procédures orales, l'éloquence a une part quasiment aussi importante que le fond, parce qu'on le présente et parce que, par exemple, quand on arrive devant des conseillers prud'homo qui ne lisent pas le dossier avant, au moment où on parle, ils connaissent à peine le dossier. Parfois, les magistrats ont tellement de travail, même dans les qu'on soit à juge unique, qu'on soit devant le tribunal correctionnel ou qu'on soit devant le juge aux affaires familiales, il n'a pas le temps de lire tous les dossiers. Donc, ce qu'on va dire a une importance autant que la manière dont on va le dire. Et c'est pour ça qu'il y a des éloquences et c'est pour ça que la musicalité a autant d'importance, la musicalité d'une plaidoirie, d'une intervention a autant d'importance que le fond, parce qu'il faut faire entendre les choses importantes, les éléments importants, les éléments de preuve importants de la manière la plus visible, la plus
audible.
La plus audible.
Alors je suis l'avocat qui va vous défendre tout à l'heure.
L'avocat d'office.
L'avocat d'office, oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai été désigné par le bâtonnier pour vous assister gratuitement. C'est un service que l'État vous rend. Moi, comme je suis l'avocat pénaliste, une fois de temps en temps, j'accepte de venir défendre des gens comme vous. Alors, vous avez un casier judiciaire, je vois, c'est important.
Pour des vols simples, toujours.
Avec 5 mentions.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que vous avez été condamné 5 fois.
Oui, par défaut.
Par défaut. Alors, je vois d'abord...
Donc là, je risque d'aller en
Pontoise,
stupéfiant.
Une affaire de stupéfiants d'abord.
À Pontoise ?
La drogue, oui. Usage illicite de stupéfiants, vol simple. Non, ça vous dit rien.
Ah non.
Ensuite, Versailles, vol.
Versailles?
Oui, tribunal de grande instance de Versailles. Non?
Je n'y suis jamais passé.
Puis Nanterre, vol encore.
Nanterre, oui.
Alors tout ça, effectivement, vous n'y êtes pas. C'est des défauts, des réputés contradictoires. Vous prenez à chaque fois du sursis.
Ben, j'ai la chance.
Ben voilà.
Et là, vous croyez que j'allais en prison?
Ben, vous allez d'abord me raconter ce qui vous est arrivé.
Et après, je vais en prison.
Alors racontez-moi ce qui vous est arrivé.
Et après, je vais en prison.
On va voir. On va voir, on va essayer de tout faire pour que non. Vous êtes jamais allé en prison de votre vie?
Non.
Jamais?
Non.
Vous avez quel âge?
22.
22 ans.
Flagrant délit, un autre film de Raymond Depardon. Ici, on parlait à l'instant d'éloquence, de manière d'entendre, de s'entendre, de l'utilisation du langage. On entend bien dans cet extrait que ce sont deux mondes et deux langages qui se rencontrent, Céline Roux. Ça arrive souvent dans les justiciables que vous rencontrez, alors pas avec les avocats, j'imagine dans la discussion vous partagez en tout cas des codes de langage communs, mais avec les personnes qui sont jugées, ça vous arrive souvent?
Ah oui, bien sûr. Il faut constamment adapter son langage. C'est une nécessité, c'est un devoir hein, pour le juge que d'être compris, d'être entendu. Donc il faut vraiment veiller à quitter le langage juridique pur pour être bien compris. Et souvent, les présidents de tribunaux correctionnels expliquent la peine après l'avoir prononcée en bonne et due forme. Ils prennent le temps d'expliquer ce que c'est que du sursis, ce que c'est que de la prison ferme et éventuellement évoquent tous les aménagements possibles ultérieurement.
C'est aussi un travail qu'on doit faire. Alors, ce sont aussi évidemment, vous l'avez bien précisé tous les trois, en fonction des affaires hein, et du domaine des affaires que vous traitez, que de se mettre d'accord avec le client sur un langage commun, qu'on soit bien sûr qu'on parle de la même chose. Marie Dubois-Frenet.
Oui, tout à fait. Déjà, nous, en amont, retranscrire ce qu'on comprend, notre analyse du dossier au client et la retranscrire dans un langage qu'il comprend, ça fait partie. C'est pour ça qu'on est mandaté. Hein. C'est important de rien faire sans que le client soit au courant et soit d'accord avec notre stratégie et notre approche juridique du dossier. Et pour ça, il faut mettre tous les arguments à sa portée, c'est-à-dire vraiment traduire tout dans un autre langage. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose aussi qu'on a l'habitude de faire quand on est dans les études où tout le monde parle le même langage et technique. Et là, du coup, voilà, faut se mettre au niveau du client. Et c'est parce que c'est le client est roi, donc c'est vraiment lui qui...
Le client est roi et en même temps, c'est sa justice. C'est-à-dire que c'est aussi la justice des citoyens. C'est une justice qui nous appartient, auquel on est. Donc on doit aussi partager un langage commun pour que la justice soit faite et qu'elle fasse sens. Il y a aussi cette question-là, que ça fasse sens à un moment donné.
Je sais même pas où commencer en fait. En même temps, c'est la première fois que je fais ça, donc vous m'excuserez si ça part un petit peu dans tous les sens ou si je suis trop confus. Faut dire qu'en ce moment, j'ai bien du mal à mettre mes idées au clair quand même. J'ai bien du mal à trouver mes mots. Enfin voilà, je vous dresse le tableau vite fait. Je suis né dans une famille plutôt aisée, j'ai toujours été privilégié. J'ai jamais manqué d'amour ni de rien d'autre d'ailleurs, même si ma mère, qui vient quand même d'un milieu assez populaire, était parfois un peu sévère avec mes frères et moi. À l'école, j'étais bon élève, à la maison, j'étais poli. Je me souviens pas avoir fait trop de conneries étant petit. Par contre, j'ai fait des études correctes et aujourd'hui, je sais que mon parcours est plus ou moins tracé. Disons que je sais où j'arriverai si je continue sur ma lancée. J'aurai probablement une femme et de beaux enfants, un crédit à payer, un épagneul anglais et un coupé cabriolet. Et pourtant, vous voyez, ça fait maintenant presque 6 mois que je dors à peine, que je peux ne rien bouffer pendant 2 jours sans même m'en apercevoir. Quand je me regarde dans le miroir, j'y vois un mec bizarre, pâle, translucide, tellement livide, à faire sourire un génocide. Docteur, je rigole pas. Faut que vous fassiez quelque chose pour moi, n'importe quoi. Prenez un marteau et pétez-moi les doigts, je sais pas. Parce que là, je peux vraiment plus. Je peux plus sortir dans la rue, je peux plus mettre les pieds dans des bureaux. De toute façon, je suis devenu incapable de prendre le métro. Ça pue la mort, ça pue la pisse. Ça me rend claustro et agressif. Et puis j'ai vraiment l'air d'un gland dans mon costard trop grand et mal taillé. Que même si je voulais faire semblant, il y aurait toujours marqué en gros troufion sur mon front. Et puis tous ces gens qui cherchent absolument à s'entasser, qui poussent, qui suent, qui sifflent entre leurs dents comme des serpents. Vas-y, du coup, monte, t'as raison. De toute façon, t'auras beau être le premier arrivé, à la clé, on va tous se taper la même journée scabreuse. Les yeux collés à l'écran de l'ordinateur, tu détruis les pupilles, à lire en diagonale des choses auxquelles t'entraves que dalle. Non mais tu comprends, il est hyper important ce dossier. Le client il rack 300 euros l'heure, alors tu te débrouilles, tu vas chercher sur Google s'il faut, mais tu me finis ça pronto. Ah oui, vous avez pas parfaitement raison, oui. C'est de ma faute, oui, je suis pas assez réactif. Ah, c'est drôle, oui. Collez-moi des gifles. Connard. Et si t'allais plutôt te carrer des poignées de porte dans le cul pour voir? Déjeuner des salades composées à 12 euros ou de la barbac en carton bouillie, de manger sur un coin de table, puis de passer des après-midi minables à enculer les mouches et finir par embrayer sur des after-work entre collègues. Mais quel cafard, à croire qu'on aime tellement se faire enfler la journée qu'on en redemande le soir.
Mais bon, Jean-Baptiste Demotion, c'est vous qui avez choisi ce titre de Faux Sainte-Anne. Pourquoi?
Parce que je trouve qu'elle représente bien une. Peut-être pas une certaine période de ma vie, mais en tout cas les idées que je pouvais. Et les gens que je pouvais côtoyer dans mes études et au tout début, soit dans les périodes des stages, qu'ils soient de l'EFB, ou soit même en début de vie professionnelle, dans des grands cabinets. Ça reflète bien un petit peu cette... Et le métier d'avocat n'est pas le seul de ce point de vue-là, d'ailleurs. Avec cette dualité où on se sent quelqu'un d'important, ou en tout cas on veut participer à quelque chose d'important, et parallèlement le prix à payer est à la fois humain dans les relations avec les autres et même soi-même de sa bonne santé. Et je trouve que cette chanson traduit un peu bien cette schizophrénie-là de vouloir travailler sur des très beaux dossiers, de vouloir être dans un très très gros cabinet extrêmement...
Et avaler des salades en deux minutes chrono le midi.
Voilà.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
14h52 sur France Culture. À cette heure-ci, chaque jour, procès et discussions se suspendent et laissent la parole à quelqu'un qui nous raconte un moment important pour lui. Cette semaine, c'est le musicien malien Balaké Sissoko. Aujourd'hui, il raconte le savant choix d'une calebasse pour sa kora, la première kora.
À l'époque, moi j'avais 13 ans. Donc, il y a l'ensemble instrumental national que mon père travaillait là-bas qui m'ont appelé. Donc, c'est là que là, j'ai quitté de l'école pour être fonctionnaire d'État. Parce que bon, au Mali, l'ensemble national, c'est pour l'État. Donc là, j'ai perdu mon père en 81. Donc sa kora, donc les calebasses étaient cassées. Donc comme l'instrument était cassé, donc c'était pour l'ensemble national du Mali. Donc il faut que là, je dois y avoir une kora perso. Donc c'est là que ma mère, elle est allée au marché chercher des calebasses, essayer de négocier pour la peau, tout. Participer de fabriquer des mes. Voilà. Donc là, c'était vraiment quelque chose là, qui m'a beaucoup touché. Et c'est ma mère qui choisit la calebasse, tout. Et c'est de la bonne calebasse, quoi. Donc, qui peut avoir une bonne acoustique. Il connaît bien. Donc, c'est elle qui choisit. Donc, et comme ma mère aussi, son père, c'est un joueur de kora. Même si mon père, il fabrique ses kora, donc ma mère, elle participe, quoi. Donc, elle connaît bien toutes les matières, tout. Donc du coup, là, je lui fais confiance parce que il m'a pas cherché une vingtaine de calebasses, mais quand même 4-5 comme ça, mais toutes ces résonances sont magnifiques. Parce que son père aussi, c'est un joueur de kora. Donc mon grand-père maternel, c'est lui aussi qui m'a beaucoup initié plein de choses, qui m'a montré plein de choses. Et pour l'accorder vite, c'est mon grand-père maternel qui m'a initié de ça. Moi, ma kora, ça représente comme ma mère, quoi. Donc, en fait, c'est elle-même, je peux dire, qui m'encourage, sans parler, mais de me montrer vraiment des matières, des trucs. Là, c'est pour cela. Moi, quand je joue toujours, là, je pense vraiment des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent et... Les monnaies, donc, moi, j'ai appris la musique. Donc, c'est pas avec des pressions. Donc, c'est là quelque chose...
De tranquille.
Voilà, de tranquillité, les moments que j'ai envie. Et ma mère m'a laissé le chemin de suivre cette méthode sans me parler. Même c'était ça, son technique, parce que là, j'avais très jeune. Donc, j'ai pas l'accès sur certaines choses. Il m'a payé un billet pour aller au Sénégal parce que... Elle est sénégalaise, donc son père, il était au Sénégal. Donc là, je suis allé là-bas pour 3 mois. Donc juste pour me mettre vraiment dans la musique, bien, à l'écoute. Et comment et comment te comporter tout au long. Voilà. C'est à la fin que là j'ai compris, donc c'était ça le sujet. Ah oui. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high. Then he lightly touched down. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked at me to be the eyes of age as he spoke. He laughed and slapped his leg a step. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.
Et c'est grâce à vous, Céline Roux, qu'on entend Nina Simone pour terminer l'émission avec ce titre « Mr. Bojangles ». Pourquoi ?
C'est un titre que j'ai beaucoup écouté dernièrement puisqu'il fait écho à un roman qui a été publié il y a peu, En attendant Bojangles, un roman qui raconte, enfin, qui fait le récit d'une sorte de folie douce dans laquelle glissent les personnages, une folie poétique qui les conduit à quitter le réel. C'est ce que beaucoup de gens qu'on rencontre dans les enceintes judiciaires font à un moment ou à un autre de leur vie. Il y a de la poésie aussi dans tout ça.
Et c'est facile de les suivre justement quand vous sentez qu'ils ont quitté à leur manière le réel ?
Bien, nous on incarne le réel, donc il faut le rappeler, il faut le marteler. Mais comment ne pas parfois comprendre ce départ vers ailleurs ?
C'est un livre qui a reçu, on peut le dire au passage, le prix France Culture des étudiants cette année. Voilà, il était signé Olivier
Bourdeau.
On peut rappeler votre titre et votre livre à vous, La juge de 30 ans, qui est paru dans la collection Raconter la vie aux éditions du Seuil. C'est un très beau livre, vraiment. Je conseille à chacun de le lire. Merci infiniment à tous les quatre de nous avoir raconté vos vies et vos métiers. Jean-Baptiste Demotion, Céline Roux, Marie Dubois-Frenet et Boris Rosenthal. Longue vie.
Merci. Merci.
Les nouvelles vagues sont terminées. Vous pouvez réécouter sur franceculture.fr. On peut aussi s'écrire et se lire sur franceculture.fr. Cette chose est possible via Twitter et Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast de l'émission sur franceculture.fr. Merci à Romain Debec-de-Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron qui imagine cette émission avec moi et à Somanina qui la réalise. Merci à Michael Simon et Romain Couturier de la discothèque. Aux manettes aujourd'hui, c'était Jean-Guilain Meige et au droit d'auteur, Cyril Svetojevic.